BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, on va parler développement et équipe de production dans un instant avec nos invités suivants. Mais pour l'instant, on va parler d'IA générative à l'occasion de... Alors, on vous parle évidemment beaucoup d'IA générative, mais là, c'est à l'occasion d'un ouvrage qui est sorti. L'IA sera ce que tu en feras. Alors, la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il était sorti première édition en 2019, et là, la deuxième vient de paraître le 22 avril, donc aux éditions Duno, les 10 règles d'or de l'intelligence artificielle. Et pour en parler, Jean-Philippe Débiol. Bonjour Jean-Philippe.
Enchanté.
Merci d'être avec nous, directeur général Financial Services et Generative AI, IMEA leader chez IBM. Et Laurent Prudhon. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de la Cognitive Factory au Crédit Mutuel. Alors, qu'est-ce qu'on dit de plus dans cet ouvrage? Alors, il y a 7 ans qui ont passé entre les deux. Bon, je pense qu'il y a surtout la date de novembre 2022, l'IA générative qui sort, ouais. Là maintenant on est dans les agents IA. Si on enlève un peu tous les fantasmes des discours, ouais. qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on dit dans cet ouvrage, Jean-Philippe?
Alors, c'est ce qu'on s'est dit avec Laurent lorsqu'on a eu ce projet commun de rééditer ce livre, c'est finalement qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé. Alors commençons par ce qui n'a pas changé, c'est que quelque part l'IA sera ce que tu en feras version 2019, c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça n'était hier. Mm-hmm. C'est un phénomène, je dirais, très profond qui est en cours, une transformation majeure, et quelque part ce qu'il y a de nouveau, c'est trois choses. La première chose, c'est qu'on est passé d'une logique où on appréhendait l'IA comme un outil et maintenant on l'appréhende comme étant un collègue, oui. Un co-worker. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on décrit dans le livre quand on parle de co-era, comme collaborer, co-designer, co-travailler. C'est pas un changement de mot, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que ce monde du travail est en train d'évoluer à une vitesse incroyable dans lequel l'IA occupe une place maintenant comme étant un collègue avec lequel on doit apprendre à travailler. Mm-hmm. Et donc tout le sous-jacent de ça, c'est quelles sont les nouvelles aptitudes, les nouvelles compétences qu'on a développées, mais aussi paradoxalement, ce qu'on décrit dans le livre, il faut avoir un certain lâcher-prise. On ne pourra pas et on ne doit pas tout faire. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas tout superviser et tout contrôler, ce qui est deux choses très différentes. Donc première chose, la co-era. La deuxième chose qui est en train de se passer, et c'est l'agentique qui amène ça de vitesse fulgurante, c'est qu'on est passé dans une logique de relation à quatre. Relation à quatre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que les clients finaux auront des agents, les banquiers auront des agents, et donc la relation, le modèle relationnel qui régit l'ensemble de ces acteurs va être extrêmement complexe, puisque les agents vont travailler ensemble, les hommes et les femmes vont travailler ensemble, et quid quelque part de la supervision de cette relation-là, quid de la valeur générée par cette relation-là.
Et puis même, moi j'ai plus loin parfois, je parle même de l'infrastructure, là, quand on est des milliers de collaborateurs comme au Crédit Mutuel. Absolument. Et tout d'un coup tout le monde a ses agents, on se retrouve à des millions de collaborateurs.
C'est absolument
faut,
ça.
Faut tenir la charge aussi.
Et bien là, hein. Tu évoques un sujet majeur, c'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est qu'on est enfin en train de rentrer dans des vrais sujets, qui sont des sujets d'infrastructure, d'architecture fonctionnelle et technique, que n'avaient pas amené les premiers sujets d'IA qui étaient très superficiels. Et le dernier thème qui est cher à Laurent et moi, c'est fondamental, c'est le triptyque, c'est-à-dire confiance, adoption, ROI. Sans confiance, il n'y aura pas d'adoption, et sans adoption, il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc toute la question maintenant, c'est comment est-ce que je m'assure qu'on ait une IA de confiance qui génère l'adoption, et donc une vraie utilisation de l'IA, et in fine, un retour sur investissement.
Alors justement, je regardais une étude faite par IBM Institute for Business Value, qui disait 64% des dirigeants français craignent l'échec de leur projet IA. Alors c'est par manque d'intégration, par manque de formation, ce genre de choses. Laurent, comment on voit ça quand on est les manches remontées, les deux mains dedans?
Oui, c'est ça la complémentarité qu'il y a dans le livre. Jean-Philippe, avec sa vision, et puis moi qui suis dans la soute, a essayé d'implémenter tout ça. Et donc vous en avez parlé, et ces deux aspects sont importants. Il y a un vrai aspect d'infrastructure, d'architecture, de compétences dans le système d'information. Nous sommes une banque, nous devons une absolue confidentialité, résilience des données pour nos clients. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous mettre à la merci des plus grands fournisseurs, et donc nous devons tout construire en interne. Heureusement, dans notre cas, nous pouvons nous baser sur 10 ans, ça fait 10 ans que nous avons créé des équipes dédiées sur le sujet, et nous avons embarqué tous les mécanismes pour développer et mettre sous contrôle l'IA directement dans nos systèmes d'information. Et puis il y a l'aspect gouvernance. Donc nous avions anticipé un peu cette arrivée de l'IA générative avec la création d'une charte éthique de l'IA qui n'est pas un document de communication, qui est vraiment 26 engagements extrêmement concrets derrière lesquels nous avons des équipes à plein temps qui travaillent pour implémenter concrètement dans les processus, dans les architectures, ces engagements.
Donc on a la partie confiance, on a la partie voilà, développement là, et cette partie ROI aussi. Comment on décide voilà lorsqu'on est là au Crédit Mutuel en l'occurrence, mais quand on est dans une entreprise de dire ça on peut y aller, ça parce qu'il y a cette crainte hein, quand même, on la voit souvent.
Eh bien, c'est pensé dès le départ, c'est-à-dire que, par exemple, dans notre entreprise, nous avons créé des cellules d'accélération de l'IA dans chacune des entités, dans chacun des domaines de l'entreprise. Nous donnons presque une dizaine de jours de formation aux personnes qui en font partie et qui peuvent imaginer les cas d'usage, mais dès le départ, mesurer, évaluer leur retour sur investissement, grâce aussi à l'expertise interne sur l'analyse technique, qui permet de flécher tout de suite les projets les plus impactants.
Alors, Laurent insistait, de Crédit Mutuel, insistait sur cette côté souveraineté.
Oui.
Alors, c'est vrai que c'est important. Est-ce que alors, IA, entre guillemets, à la française, hein, je ne veux pas dire qu'il faut utiliser que des outils français. On a la chance d'avoir un beau leader avec Mistral, mais enfin, il y en a d'autres derrière. Hein, il y a beaucoup d'entreprises. Mais après, c'est l'usage que l'on en fait, même des modèles, des anthropiques, etc. Absolument. Comment on réussit à concilier tout ça? Souveraineté des données, éthique, performance et puis utilisation des outils qui ne sont pas forcément tous franco-français.
Ouais. Alors, ma vision sur le sujet de la souveraineté est assez simple. Je pense que la souveraineté n'est pas qu'une question de couleur de solution. Ça, c'est extrêmement réducteur de penser ça. A contrario...
Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait vite
très limité. Tu as absolument raison. Et je crois que le Crédit Mutuel en est un exemple vivant. C'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis maintenant plus d'une décennie. C'est-à-dire quelque part que la souveraineté, c'est d'abord la maîtrise de ce qu'on fait. Et la maîtrise de ce qu'on fait, ça passe entre autres par une logique, on va dire, on-premise, c'est-à-dire ce qu'on fait au sein de la maison. Deuxièmement, ça passe aussi par un aspect humain de compétences, de savoir-faire qu'il nous faut avoir en interne pour ne pas être dépendant, effectivement, de quel que soit le partenaire et de sa couleur d'appartenance, ce qui n'a aucune importance à ce stade. Par contre, ce qui est important, c'est quelles sont les compétences qu'on développe quantitativement et qualitativement pour pouvoir être souverain dans le déploiement de l'IA. Et donc, quelque part, je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre des acteurs qui, effectivement, malheureusement, ont une dépendance très forte à, on va dire, un environnement extérieur quel qu'il soit, versus d'autres acteurs qui ont su développer ces compétences-là. Et ce qui est amusant entre nous, c'est que ce qu'on voit sur l'IA, mais est vrai aussi sur d'autres sujets, par exemple le quantique, où des groupes ont pris de l'avance en développant leurs propres compétences. C'est toujours cette même philosophie, c'est-à-dire on a une logique industrielle, on a une logique souveraine dans la mesure où on est maître de son destin au travers des compétences et de solutions que nous avons mis en place au sein d'une entité.
Je reviendrai sur le quantique dans un instant. Laurent Prudent, Crédit Mutuel, il y a des exemples très concrets de mise en place enfin, vous en avez certainement en tête, mais un ou deux dont vous pouvez nous parler.
Par exemple, pour nous, comme beaucoup d'entreprises autour de la relation client aujourd'hui, on peut, grâce à l'IA générative, préparer les entretiens, optimiser la restitution, l'exploitation de l'entretien qui a lieu, puis après l'entretien, faire un suivi et optimiser les échanges avec le client. Donc autour de la relation client et de l'accueil, c'est aussi beaucoup de projets en back-office sur le traitement des appels, de la conformité, de la réglementation, qui est une charge importante, avec à chaque fois l'enjeu de pouvoir accélérer les traitements et offrir un meilleur service.
Et alors, derrière, je vois ça, parce que c'est le sujet... Enfin, je trouve que cette année, sur 2026, il y a deux sujets, au-delà de l'IA qui accélère, etc., il y a deux sujets un peu forts, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité, on en a un peu parlé, et c'est tout ce qui est lié à l'emploi. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, même si, selon les études, quand une entreprise dit, voilà, on a supprimé 10 000 postes, c'est plutôt à cause de l'IA, c'est plutôt la moitié qui sont vraiment à l'IA. Mais comment vous voyez ça? Alors, on dit toujours, l'IA ne remplacera pas complètement l'humain, mais on sent quand même qu'il y a un mouvement, là, aujourd'hui.
Alors dans le livre, je pense que c'est bien développé. Il faut bien voir qu'avec l'IA, et même avec l'arrivée de l'IA agentique, qui va être un impact, un collègue un petit peu plus fort que ce qu'on avait précédemment, mais on est toujours dans l'automatisation de certaines tâches dans un métier. Or, un métier contient de nombreuses tâches. Oui. Et en particulier, dans la banque, dans l'assurance, on a des conseillers qui sont extrêmement généralistes, qui vendent des centaines de familles de produits, donc qui font des milliers de tâches au quotidien. Et donc nous, informaticiens, même si on les aide à en automatiser quelques-unes, eh bien, il en reste beaucoup. Mmh. Et donc, l'objectif n'est pas d'attaquer l'emploi, bien sûr que non. L'objectif est toujours de pouvoir se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, on le disait déjà, mais aussi de monter en qualité.
En fait, quand on se sent débordé par plein de choses, l'IA va nous aider à être peut-être toujours débordé, mais un peu moins par certaines tâches où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée.
Oui, et ce qu'on décrit dans le livre, il y a deux mots qu'on a utilisés, c'est qu'on est en train de passer d'une logique d'humain. Tu sais, on a beaucoup parlé d'humain augmenté, assisté. Ouais. C'est toujours le cas, et ça continuera. L'un ne va pas exclure l'autre, donc ça va continuer à être une dynamique forte. Mais maintenant, il faut considérer cette notion d'humain délégué. Mm-hmm. Parce que là, l'IA agentique, ce qu'elle fait bien, c'est qu'elle agit. Elle agit au nom de qui? D'un utilisateur. Et donc, quelque part, il y a toute une problématique qu'il va falloir se poser, c'est quelles sont les tâches ou activités dont je souhaite qu'elles soient opérées en totalité ou partiellement par des agents, sous mon contrôle, sous mon autorité, sous ma supervision. Et paradoxalement, et là je m'inscris en faux par rapport à ce nombre de discours, je suis convaincu d'une chose, c'est que plus l'IA avance, plus on a besoin de gens qui sont expérimentés, qui ont la connaissance nécessaire pour prendre du recul par rapport aux résultats.
D'ailleurs, on en parlera dans un débat dans un instant avec nos deux autres invités.
C'est
dans
fondamental.
Le domaine du codage.
C'est absolument fondamental, mm-hmm. puisque si on n'a pas ce recul, si on n'a pas cette expérience, comment veux-tu détecter les informations fausses qui sont inhérentes à l'IA? Comment veux-tu détecter les hallucinations qui sont inhérentes au système d'IA? Tu ne le peux pas. Donc c'est pour ça que je pense que là aussi, sur la partie dynamique des relations humaines, c'est fondamental. Et je te donne un petit chiffre en exclusivité. Mm-hmm. Oui. Ce matin est apparue une étude très intéressante, de mon point de vue, d'IBM, qui s'appelle la CEO Survey. 2000 chairman ou chairwoman ont été interviewés au niveau mondial. Deux, trois findings que j'ai trouvé très intéressants, deux, trois éléments que je trouve intéressants. La première chose, c'est que une très grande majorité de ces CEO voit le retour des ressources, la direction des ressources humaines en première ligne de l'IA. Il était temps. Oui. Il était temps. Première findings. Et deuxième findings entre nous, c'est que quand je continue à dire qu'on est au tout début de la révolution industrielle qu'est l'IA, 25% à peine des 2000 présidents ou présidentes estiment que leurs collaborateurs ont réellement adopté l'intelligence artificielle au quotidien dans leur boulot. 25%. Donc le chemin est très long. Mm-hmm. Donc on a cette capacité d'action, on a cette capacité de faire.
Ceux qui ouvrent leur modèle dès l'arrivée à leur bureau, leur modèle LLM ou leurs agents justement.
Oui.
Juste un mot, on a rapidement évoqué le quantique. Tiens, quand on est une banque, voilà, un utilisateur, le quantique, on y pense forcément. Alors pour l'histoire de cybersécurité, d'accélération de process, mais oui, il faut s'y intéresser aujourd'hui, Laurent Prudent.
Absolument, et on fait avec IBM depuis le départ, on fait plus qu'y penser chez Crédit Mutuel, mm-hmm. puisqu'on a créé en partenariat avec IBM une Quantum Factory, oui. de la même manière qu'on a une Cognitive Factory sur l'IA, oui. et de la même manière qu'on a investi, qu'on construit des data centers, qu'on achète des machines Nvidia, etc., pour maîtriser notre avenir. L'IA sera ce que tu en feras si tu maîtrises ton avenir. Ben c'est la même chose sur le quantique. Pour l'instant, c'est vrai que pour une utilisation dans la finance, c'est encore un peu prospectif. Oui. Simplement, on a des
Il y a le chiffrement post-quantique qui peut.
Alors ça, c'est autre chose. On travaille très sérieusement là-dessus,
c'est
évidemment. Mais vraiment sur la partie exploiter des algorithmes quantiques mm-hmm. au service de la banque ou de l'assurance, eh bien, on a des équipes mm-hmm. conjointes qui travaillent, qui ont déjà des premiers cas d'utilisation en production, pas D'accord. forcément aujourd'hui avec un avantage marqué mm-hmm. par rapport mm-hmm. à l'informatique
classique.
Qui
seront appuyés sur l'accélérateur le jour où...
Les équipes sont prêtes, elles maîtrisent la technologie, c'est branché dans notre système d'information, mmh. et dès qu'on mmh. passe la barre d'un avantage quantique, mmh. on est prêt à démarrer.
Alors, petit mot, alors aussi une exclusivité, Frédéric, là, c'est mmh. pour le Avivatech, il y aura deux collaborateurs du groupe Crédit Mutuel sur le stand IBM pour parler de notre aventure quantique ensemble. Donc, point de rendez-vous Vivatech dans quelques semaines.
Ce sera le moment de s'y retrouver. Messieurs, merci à tous les
merci
deux. Jean-Philippe
Desbiolles,
donc directeur général Financial Services et Generative AI, IMI et leader chez IBM, co-auteur, enfin avec la collaboration Absolument. De Laurent Prudent, directeur de la Cognitive Factory Crédit Mutuel. L'IA sera ce que tu en feras aux éditions d'Uno. Donc, allez-y. Hein, et la nouvelle. Alors, prenez pas celui de 2019, hein. Prenez bien celui qui est paru le au mois d'avril. Merci à tous les deux.